Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Ingénieur d'hier et d'aujourd'hui. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio. Dans le cadre de notre chronique Ingénieur d'hier et d'aujourd'hui, je reçois aujourd'hui Renaud Crassous. Renaud, bonjour.
Bonjour l'IGAIA.
Alors, tu es ingénieur polytechnique avec une spécialité eau et forêt. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement de Polytechnique ?
Alors, j'espère que je ne vais pas vous dire de bêtises parce que ça a changé depuis que je suis passé par l'école à Palaiseau. Je crois que maintenant c'est en 4 ans alors qu'à l'époque c'était en 3+2. Donc à l'époque, on rentrait sur un concours classique maths sup maths sp, je crois que c'est toujours le cas. On passait une première année qui était une année de formation militaire, puisque Polytechnique est encore une école du ministère de la Défense, dans laquelle on a un statut d'officier. Et puis après cette année, qui était très formatrice en termes de mise en situation avec une responsabilité managériale dans l'armée, on passait 2 ans d'enseignement partant du général vers le plus spécialisé, avant de choisir une école d'application ou une spécialisation sous forme d'un DEA et d'une thèse ou d'une école à l'étranger. Pour ma part, quand je suis rentré à Polytechnique, j'ai d'abord passé 1 an à être chef d'une section dans la sécurité civile, dans le Var. Et puis ensuite, j'ai choisi des spécialités, d'abord biochimie et économie de l'environnement. Et puis ensuite, j'ai choisi comme école d'application de rentrer dans le corps des eaux et forêts. Voilà, ce qui est un corps de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, qui s'appelle maintenant le corps des ponts, des eaux et des forêts, puisque dans le mouvement général de fusion des nombreux grands corps qui existent dans la fonction publique, le corps des ponts et le corps du génie rural des eaux et forêts ont fusionné il y a quelques années. Et c'est en fait le corps qui fournit les hauts fonctionnaires du ministère de l'écologie, du développement durable principalement, et puis un certain nombre de postes aussi dans d'autres organisations comme l'ONF, le ministère du budget ou d'autres organisations internationales.
Alors qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cette école ?
Alors dans l'envie de rentrer à une école d'ingénieur, il y a d'abord bien sûr le prestige et l'aura de l'école polytechnique et le fait que ça ouvre à énormément de possibilités derrière. Et puis il y a un petit peu aussi le hasard du concours et du passage par les classes prépa qui se solde soit par la réussite au concours qu'on espère, avec toujours un petit peu d'incertitude à l'avance sur l'école qu'on va réussir. Donc là c'était une bonne surprise de réussir Polytechnique. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce parcours-là, c'est la possibilité de choisir d'abord de continuer à faire beaucoup de sciences dures et des sciences fondamentales pendant au moins 1 an, 1 an et demi en 2e et 3e année, et puis de prendre vraiment le temps de choisir une spécialisation pour son école de spécialité.
Alors, est-ce que tu as un plus beau souvenir ou un pire souvenir à nous raconter ?
Alors, mon pire souvenir pour commencer, c'est que en rentrant à Polytechnique, je voulais faire de la recherche en génétique. Et donc, comme je sortais d'une filière qui doit s'appeler toujours MP étoile, j'étais surtout matheux. Et donc, pour faire de la biologie moléculaire, il fallait que j'apprenne un peu à faire de la chimie. Et la chimie et moi n'étions pas très amis. Et donc, j'ai trimé assez fort. Je pense que c'est le moment où j'ai le plus travaillé à Polytechnique pour finir par un 3 sur 20 dans la palle de chimie. Donc, ça m'a permis au moins de voir que j'étais vraiment pas chimiste.
C'était pas ça.
C'était pas ça et qu'il fallait que je trouve une autre voie. Et à ce moment-là, j'ai commencé plutôt à faire de l'économie de l'environnement et de l'économie de l'énergie. Ça, c'est pour le souvenir le pire, mais finalement pour une bonne cause, puisque aujourd'hui, je suis très content d'avoir choisi cette autre voie. Et puis, mon meilleur souvenir, alors c'est peut-être un souvenir en marge de l'école, puisque à l'occasion d'une soirée étudiante, comme on en connaît tous, un de mes anciens amis de prépa m'a refilé le bébé du club de Montgolfière, de l'école polytechnique. Et donc je suis devenu le titulaire de ce club-là, j'ai appris à piloter une montgolfière et à voler avec, et j'ai eu beaucoup de moments de plaisir à voler à différents endroits en France avec la montgolfière de l'école polytechnique.
C'est très sympa ça, un beau souvenir.
Voilà.
Alors quel a été ton parcours professionnel ensuite ?
Alors ensuite, en sortant de l'école des eaux et forêts, j'étais donc avec un statut de fonctionnaire et j'ai commencé ma carrière de fonctionnaire dans la recherche en intégrant un laboratoire qui s'appelle le CIRED, qui est un laboratoire commun à l'école polytechnique, à l'école des ponts, à l'école des eaux et forêts, à l'EHESS, au CNRS, donc avec plein de liens avec différentes institutions. Et c'est un laboratoire qui, à l'époque, avait sa base sur l'économie du développement et l'économie de l'environnement, fondé par Ignacy Sachs, qui avait théorisé en fait l'éco-développement, c'est-à-dire à quel point l'écologie est nécessaire pour un développement sain et harmonieux dans la durée, y compris pour les pays en développement. Et puis ce laboratoire était en train de se réorienter depuis quelques années sur le thème du changement climatique. Donc c'était fin des années 90, et à ce moment-là, c'était encore, le changement climatique était encore une histoire un peu d'experts. On était après la signature du protocole de Kyoto, les rapports du GIEC n'étaient pas encore très médiatisés, et donc il y a eu des années assez formidables pour faire partie de cet élan de recherche en économie de l'environnement, pour commencer à travailler à la fois les scénarios de gaz à effet de serre, comment on pouvait les réduire, avec quels instruments économiques, des taxes, des permis d'émission négociables, quel était le coût de toutes ces politiques, comment on pouvait les optimiser, essayer de dessiner des scénarios intéressants pour les politiques ou les chefs d'entreprise. Donc dans ce laboratoire, j'ai fait une thèse. J'y ai monté avec d'autres une équipe de modélisation pour avoir un gros modèle de prospective énergétique, pour projeter un petit peu, simuler les consommations d'énergie, les productions d'énergie et puis les politiques qu'on pouvait mettre pour changer le système. Et puis à la fin de cette période-là, qui a duré 7 ans, j'ai choisi de ne pas rester chercheur et de basculer dans l'industrie du long terme. Et l'entreprise qui à ce moment-là m'a fait la proposition la plus intéressante était EDF, qui m'a proposé finalement de mettre à disposition de l'entreprise et de continuer à cultiver mon expertise dans le groupe EDF. À ce moment-là, je suis rentré en 2009 à la direction de la stratégie et de la prospective d'EDF pour y apporter l'expertise que j'avais acquise dans le milieu de la recherche, mais surtout pour l'éprouver dans un contexte industriel de long terme et pour l'améliorer en prenant connaissance beaucoup mieux des enjeux technologiques, institutionnels, industriels qu'il y avait derrière les différentes technologies sans CO2. J'ai fait ça jusqu'en 2014, où là, j'ai voulu, après 5 ans à la stratégie, mieux connaître, mieux exercer un métier très opérationnel de l'entreprise. Et je suis devenu directeur du groupement d'exploitation hydraulique de la Dordogne, donc qui est basé en Corrèze, et qui déborde un peu sur le Cantal, la Dordogne et le Lot. Donc là, j'y ai été directeur d'à peu près 150 personnes, une trentaine de barrages, donc une expérience d'exploitation, de production très concrète, derrière les machines et avec les hommes qui pilotent ces machines. Et puis, en début d'année de cette année, 2017, j'ai été appelé à prendre la direction du CNEPE. Le CNEPE, qui est un centre d'ingénierie à Tours, qui regroupe à peu près 800 ingénieurs sur Tours, qui s'occupent en fait de l'ingénierie des centrales nucléaires, mais de la partie non nucléaire des centrales. Voilà, donc là, c'est du management, c'est une grosse entité d'ingénierie, comme il y en a chez EDF, dans le domaine nucléaire, mais aussi dans le domaine thermique ou hydraulique.
Alors justement, quel type de profil d'ingénieurs vont se retrouver au CNEPE ?
Alors, il y a une grande diversité de profils. D'abord, il y a des gens qui sont ingénieurs d'écoles spécialisées dans leur domaine. Évidemment, dans le domaine électrique, on pense à Supélec, mais il y a aussi un certain nombre d'écoles qui sont dans le sillage de Supélec et qui forment leurs ingénieurs à des spécialités électriques. Il y a des ingénieurs mécaniciens, il y a des ingénieurs arts et métiers. Il y a un grand nombre de types d'ingénieurs, plus ou moins généralistes ou plus ou moins spécialisés. Et ce qui fait plaisir d'ailleurs, c'est de se rendre compte que dans les managers de ce centre d'ingénierie, dans les experts de ce centre d'ingénierie, c'est pas du tout monocolore. Et en fait, petit à petit, l'école qu'on a fait en début de carrière peut s'estomper et laisser la place à l'expérience acquise, les parcours professionnels. Alors, ça reste une semi-vérité et l'école initiale peut aussi permettre d'accélérer ou d'aller plus vite, mais je me réjouis de voir quand même qu'elle n'est pas si déterminante que ça dans la carrière des gens. C'est une des richesses aussi, je pense, du groupe EDF de permettre ça. Et puis on a aussi des ingénieurs qui n'étaient pas d'une école d'ingénieurs et qui se sont formés sur le tas, qui ont commencé avec un BTS, un DUT, qui ont eu une carrière intéressante chez EDF. À un moment, ils ont pu passer cadre, soit par leur expérience, soit en ayant une formation d'ingénieur en cours de carrière.
Eh bien Renaud, merci d'avoir répondu à mes questions et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Cité Radio.